Vous êtes à l'écoute de Lux Radio. Bienvenue. Si vous venez de nous rejoindre, c'est le moment de retrouver votre rendez-vous, Mon corps, ma vie. Avec ça, pour nous en parler, justement, Hicham Ben Abbas Tarji, hein, qui vient de nous rejoindre en studio. Hicham Ben Abbas Tarji, gynécologue obstétricien à Casablanca. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, merci.
Alors aujourd'hui, on s'intéresse à la pré-éclampsie, hein, cette pathologie de grossesse qui peut entraîner des complications majeures pour la femme, pour la mère et le fœtus. Alors, avant de vous laisser la parole, Asma, j'invite bien évidemment les auditeurs à poser leurs questions et à réagir sur notre application Lux Radio.
Hicham Ben Abbas Tarji, Donia le disait à l'instant, la pré-éclampsie est une pathologie de la grossesse avec des complications graves, hein, des fois, qui peuvent survenir et entraîner le décès, hein, de la mère et ou du fœtus. D'abord, qu'est-ce que c'est que la pré-éclampsie ? Plus en détail, et est-ce que c'est une pathologie fréquente ? En gros, combien de femmes, combien elle touche de femmes dans le monde ?
Je n'ai pas de chiffre exact en valeur absolue. Environ, ça représente de 2 à 8% des grossesses, disons environ 5%. C'est une pathologie potentiellement grave. Il faut aussi rassurer vos auditrices, c'est potentiellement grave, mais heureusement, je viens de voir les chiffres français, c'est une complication grave dans 1 cas sur 10. Donc c'est potentiellement grave, il y a des traitements. Alors c'est quoi la pré-éclampsie ? Alors au Maroc, c'est la deuxième cause ou la première cause de mortalité maternelle, parce que justement, on peut faire des hémorragies, on peut faire une éclampsie, je vais dire ce que c'est après. Donc c'est une pathologie grave, insuffisamment connue par les femmes qui ne consultent pas précocement, qui viennent au stade de complication. Alors, qu'est-ce que c'est que la pré-éclampsie ? C'est une hypertension artérielle associée à la grossesse, donc qu'on découvre après 20 semaines, et surtout associée à une protéinurie, c'est-à-dire qu'il y a une élimination de protéines dans les urines, ce qui signe l'atteinte rénale. D'accord ? Et en fait, la pré-éclampsie, c'est pas une maladie juste de l'hypertension ou du rein, c'est une maladie du placenta. C'est une mauvaise placentation. Normalement, au moment de la constitution du placenta, vers la fin du premier trimestre, il y a une vasodilatation des vaisseaux placentaires, c'est-à-dire que les vaisseaux sont mangés par les cellules du trophoblaste du bébé, de telle manière à détruire leur paroi musculaire. Et donc, elles se dilatent de telle manière à faciliter les échanges sanguins. Et donc, dans la pré-éclampsie, il y a une mauvaise placentation parce que ces artères restent musculaires, je dirais. Elles restent avec donc une certaine tension. Et donc, il y a une hypoxie placentaire, c'est-à-dire il n'y a pas suffisamment d'oxygène qui passe à travers ce placenta. Et donc, cette hypoxie va entraîner une conséquence, va entraîner des substances toxiques faites par le placenta. Et ces substances toxiques qui vont atteindre donc le cerveau, le foie, le rein, et tout, et c'est eux qui vont faire cette toxémie. C'est pour ça que d'ailleurs l'autre nom de la pré-éclampsie, c'est la toxémie gravidique, parce que c'est des substances toxiques qui vont essaimer dans tout le corps.
D'accord.
Et donc, la définition, c'est une HTA gravidique nouvelle qu'on découvre après 20 semaines associée à une protéinurie supérieure à 300 mg par jour.
Alors, la pré-éclampsie est souvent associée au diabète, hein, comme facteur de risque. Ceci dit, cette maladie est multifactorielle. Quels sont les autres facteurs de risque qui peuvent causer la pré-éclampsie ?
En fait, la pré-éclampsie se voit souvent dans notre pays chez les femmes jeunes. En France, je crois que c'est 70% des pré-éclampsies survenaient chez des femmes jeunes nullipares qui venaient de se marier. Bien sûr que tous les facteurs de risque qui vont avoir un terrain vasculaire particulier, diabète, hypertension déjà chronique, obésité, âge plus de 40 ans, maladies auto-immunes comme lupus ou syndrome des antiphospholipides, athérosclérose, hypercholestérolémie, toutes ces maladies qui vont déjà altérer le terrain vasculaire vont avoir donc une conséquence sur la vascularisation du placenta, et donc ce sont des facteurs aggravants. Mais il faut dire que la pré-éclampsie survient souvent chez la nullipare, et un des facteurs génétiques, un des facteurs de risque aussi, c'est la précocité de la grossesse après les premiers rapports sexuels. Mmh. C'est-à-dire, il y a un côté, c'est pas le seul côté, mais
on sait pourquoi.
Oui, il y a un côté immunologique. C'est-à-dire que la grossesse, c'est la greffe de quelque chose qui n'est pas à nous, qui est à 50% à la maman, mais 50% au père. Et dans la grossesse normale, il y a un phénomène miraculeux qui se passe.
C'est quelque chose que vous répétez souvent.
Oui, il y a une tolérance, c'est-à-dire qu'on accepte, que le corps de la femme accepte ce bébé qui est à 50%. Et ça vient de quoi? Ça vient du fait que peut-être il a été déjà l'organisme a été habitué aux antigènes du papa par le sperme. Et donc on retrouve souvent cette prééclampsie chez des jeunes nullipares qui viennent se marier et qui est tombée enceinte la première fois.
Ah mais c'est intéressant parce que j'allais vous poser la question de savoir, parce que c'est quelque chose que j'ai lu, on parle aussi d'insuffisance à l'exposition du sperme de son partenaire.
C'est exactement ça.
C'est ça l'explication.
C'est ça, c'est une des explications. Je vous dis, c'est justement quand...
Oui, l'explication à cette cause précise.
Tout à fait. C'est la mauvaise tolérance parce que le corps de la femme n'est pas habitué encore aux antigènes paternels parce qu'il n'a jamais été exposé au sperme de cela. Parce que je vous dis, elle est tombée enceinte dès le premier rapport ou dès les premiers rapports.
Ou bien l'utilisation prolongée de
préservatifs. Ou bien quand on change de partenaire. Donc voilà, c'est quand il y a un divorce et un changement de partenaire. Voilà, c'est un des facteurs, cette mauvaise tolérance immunitaire qui fait qu'il y a donc une mauvaise placentation.
Intéressant. Hicham Benabestaji, je rappelle que vous êtes gynécologue obstétricien à Casablanca. Alors la pré-éclampsie est plus fréquente aussi en cas de grossesse gémellaire.
Oui, en cas de grossesse multiple, parce que justement il y a un terrain vasculaire aussi, c'est-à-dire qu'il y a plus de pression sur les vaisseaux et donc ça fait une mauvaise placentation. Chaque fois qu'il y a une mauvaise placentation, il y a ce risque d'hypoxie placentaire, donc d'insuffisance en oxygène du placenta qui va donc sécréter des toxines et qui vont avoir un effet sur tout le corps. Mmh. Même si la chose qu'on voit vraiment, c'est l'hypertension artérielle.
Alors venons-en maintenant justement aux symptômes. Vous parliez là à l'instant de la tension artérielle supérieure à 14,9 au repos. Donc ça, c'est un des symptômes évidents. Quels sont les autres symptômes d'une prééclampsie?
La prééclampsie, elle est asymptomatique. C'est-à-dire que justement, vous êtes hypertendu, si on ne vous prend pas l'attention, on ne le voit pas. Et les autres symptômes sont des signes de complications. Alors ça peut être les céphalées, si elle a très mal à la tête, parce que justement, elle fait une hypertension très élevée, supérieure à 16-11. Ça peut être l'oligurie, c'est-à-dire elle va arrêter de faire pipi, et donc associée à l'œdème, c'est-à-dire elle va prendre rapidement du poids, 1-2 kilos par jour. Parce que justement, ça veut dire que là, il y a une atteinte rénale avec une insuffisance rénale. Il peut y avoir des troubles visuels, des bourdonnements d'oreilles. Et c'est lié presque à l'éclampsie,
Ça, c'est vraiment les signes d'une complication.
Oui, c'est des signes de complication. Mais voilà, qu'est-ce qui doit amener la dame à venir consulter rapidement? Je vous dis, c'est les céphalées rebelles, c'est donc les bourdonnements d'oreilles, c'est les troubles visuels, c'est la douleur abdominale en barre qui peut signer donc une atteinte hépatique. C'est l'HRP, c'est le saignement. Le saignement au troisième trimestre, ça peut être un hématome rétroplacentaire. Donc c'est des choses qu'on va... les signes cliniques qu'on a sont souvent des signes de complications. Et donc il faut, c'est pour ça qu'il faut, j'appelle toutes les femmes enceintes à suivre, à médicaliser leur grossesse, à suivre de telle manière au moins avoir une prise de tension. Parce que si on a
régulière.
Une tension régulière, un suivi chez un professionnel de santé. Si on a une prise de tension à moins de 14,9, on peut être rassuré. Maintenant, si on a des tensions à 15,10, 16,10, on est en pré-éclampsie. Et attention, on peut aller vers les complications qui surviennent surtout au troisième trimestre.
Très bien. Alors, on sait que l'éclampsie, justement, vous en parliez, est une complication majeure qui fait suite à la pré-éclampsie. Qu'est-ce que c'est?
L'éclampsie, c'est une crise convulsive. C'est comme une crise d'épilepsie. Sauf qu'elle a, elle est liée. Donc, je veux dire, il y a une irritation cérébrale majeure qui fait que donc il y a des convulsions qui peut aller jusqu'au coma, bien sûr. La femme, donc, elle est comme ça et vous voyez quelqu'un qui convulse et qui tombe.
C'est une crise.
C'est très effrayant et elle peut se réveiller dans la majeure partie, elle peut se réveiller de cette crise, mais des fois, elle va avoir une ischémie cérébrale, elle va avoir des lésions cérébrales et elle peut en mourir. Donc l'éclampsie est une urgence majeure, une complication majeure. Il ne faut pas attendre la complication. Il faut la traiter avant par rapport à...
Justement, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas arriver au stade de l'éclampsie?
Il faut se reposer. Il faut manger normaux salés, il ne faut pas faire de restrictions hydriques, de restrictions sodées chez les femmes enceintes. Il faut, et en fonction, le repos est important, donc régime normaux salé. Et si la tension n'est pas stabilisée...
Quand vous dites le repos, c'est-à-dire pas d'activité?
Non, du tout. On peut modérer, ça dépend. Vous savez, en médecine, il y a des nuances, ça dépend de votre... Mais pas d'activité majeure. Mais on peut se reposer...
Ou si on se sent essoufflé, voilà.
Voilà. Il ne faut pas trop d'activité. Et ça dépend de la tension également aussi. Est-ce que j'ai une tension à 16-10, 16-9 ou qu'est-ce que c'est? Et au besoin, les antihypertenseurs, il y a pas mal de classes qu'on peut donner qui sont assez efficaces. Voilà le traitement. Mais en fait, le véritable traitement de la pré-éclampsie, c'est l'extraction fœtale. C'est sortir le bébé. D'accord? Parce que c'est enlever le placenta qui fait donc ces substances toxiques. Maintenant, la grande problématique, c'est ça. Est-ce que le bébé est viable? Mais une pré-éclampsie à 36 semaines, 37 semaines, ben il faut pas la laisser jusqu'à 41 semaines, parce qu'on risque pour rien.
Est-ce que c'est compliqué justement de prendre une décision?
Ben quand on a un bébé à 32, 30, 28 semaines, qu'est-ce qu'on fait? Et encore une fois, ça dépend de l'éclampsie, de la sévérité, du bilan des perturbations du bilan biologique. Est-ce qu'on peut attendre? Parce qu'on voit que les bilans, bon, elle a une petite tension, elle a des bilans biologiques qui sont corrects. Donc on peut espérer attendre quelques jours ou quelques semaines. On peut faire une maturation fœtale avec des corticoïdes, mais guetter, est-ce qu'il y a guetté le début des complications pour sortir le bébé? Et dans certains cas, eh ben on est obligé, pour sauver la maman, de faire une césarienne en urgence, même si le bébé n'est pas viable. Parce que la maman, par exemple, vous me rappelez quand j'étais à l'hôpital un jour, eh ben, on avait des protocoles où on essayait, parce qu'on n'avait pas, dans les années 2000, on avait 80, oui, fin 90, 2000, on n'avait pas comment prendre en charge. Et ben, devant une éclampsie, on essayait de tenir encore, si elle se réveillait, on essayait de tenir encore la grossesse. Alors que c'était...
Mais c'est mettre en danger, en fait.
C'est tout à fait. Mais donc, des fois, on n'avait pas le choix entre garder la maman ou sortir le bébé alors qu'il n'est pas viable. Ça pose problème, d'accord? La pré-éclampsie est la deuxième cause de grande prématurité en France. Parce que, je vous dis, on va sortir le bébé pour sauver la maman. Mais il faut guetter les complications. Je rappellerai donc les complications. Il y a l'éclampsie.
Oui, justement, c'était ça ma question. Donc, on sait que l'éclampsie est la complication majeure, mais il y a, j'imagine, d'autres complications. C'est lesquelles?
Je vous dis, c'est toute la toxémie de ces substances qui peuvent atteindre le cerveau avec l'éclampsie, la crise convulsive. Ça peut atteindre le foie avec ce qu'on appelle l'hématome sous-capsuleur du foie, qui est à une 50% de mortalité maternelle. C'est énorme. C'est le foie qui éclate. Il y a ce qu'on appelle l'HRP, l'hématome rétroplacentaire, c'est-à-dire le décollement du placenta qui va occasionner un saignement et voire une mortalité fœtale si on n'arrive pas à le césariser dans rapidement pour sortir le bébé, parce qu'il y a plus de... Le placenta ne communique pas avec le bébé et la maman, donc il y a du sang et ça peut aussi tuer la maman. La CIVD, la coagulation intravasculaire. C'est-à-dire c'est une microcoagulation qui fait que le sang consomme ses plaquettes et ses facteurs de coagulation et paradoxalement le sang devient incoagulable. Il y a l'insuffisance rénale, il y a l'insuffisance cardiaque, il y a donc l'insuffisance rénale aiguë avec donc l'oligoanurie, c'est-à-dire que la maman ne pisse plus. Donc il y a des complications qui peuvent être très graves et qu'il faut donc guetter. Il y a le HELLP syndrome, c'est-à-dire hémolysis elevated level. Platelet et low plaquettes, c'est-à-dire une consommation des plaquettes et une anémie et donc une atteinte du foie. Et donc devant un HELLP syndrome, il faut aussi devoir sortir le bébé dans les 24-48 heures. Il y a des éléments donc qu'il faut guetter ces complications pour pouvoir sortir le bébé au bon moment quand on voit que ça devient critique, avant que ça ne devienne critique.
Donc l'importance justement de médicaliser. Enfin, de faire un suivi vraiment régulier de sa grossesse.
Tout à fait.
C'est le message à retenir aujourd'hui.
Autre chose, je dirais, il faut éviter de tomber enceinte dès les premiers jours du mariage. Il ne faut pas tomber enceinte lors de la nuit de noces. Il faut prendre une contraception avant parce que, je vous dis, ça favorise aussi cette non-exposition au sperme paternel, favorise les pré-éclampsies. On les voyait beaucoup chez les jeunes 17 ans, 18 ans, qui viennent se marier et qui arrive en éclampsie à l'hôpital. C'est quelque chose vraiment de malheureux.
Merci beaucoup, Hicham El Abestaghi, pour toutes ces réponses et ce conseil. Je rappelle que vous êtes gynécologue obstétricien à Casablanca. On vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là,